prof de linguistique à Constantine, dans l'Est algérien. Mais elle est surtout animatrice de la coordination nationale des associations femmes en Algérie. Et elle fait partie, comme militante, d'une association locale à Constantine, Israr, qui signifie en arabe « détermination » et qui s'occupe du droit des femmes en Algérie aussi. Elle va donc faire un exposé, et je vous propose qu'on ouvre le débat ensuite sur le film et sur ce qu'elle aura dit. Suite aux derniers changements politiques en Algérie, on a pensé que ce serait intéressant de voir quelle était la situation des femmes algériennes aujourd'hui, une situation dont les difficultés et la précarité ne datent de loin pas de ces changements politiques, mais qui remontent à bien plus d'années et même avant l'indépendance. Et d'autre part, les conséquences pour elles aujourd'hui de ce changement politique et les activités des associations femmes, de femmes en Algérie. Elle va nous parler de ce que font les associations de femmes en Algérie en ce moment, qui sont très actives et qui regroupent un grand nombre de femmes. Alors, je te laisse la parole.
Peut-être juste une chose. Je vous demanderai de ne pas fumer dans cette salle, d'une part pour des raisons de possibilité de pouvoir respirer, c'est-à-dire que si on fume au bout de quelques minutes, ça devient très vite insupportable. Alors voilà.
Ok. Bien. Eh bien, je commencerai par dire que si le mouvement des femmes en Algérie ne date pas de l'année 88, parce qu'on a souvent tendance à le dater justement après le 5 octobre 88 et donc l'explosion populaire, mais surtout celle des jeunes qui a eu lieu, il a connu, disons, un nouveau souffle, justement, dans le cadre de cette lutte pour la démocratisation de la société algérienne. Et encore une fois, même s'il y a eu énormément de luttes de femmes, plus qu'on ne le croit, en Algérie, entre 62 et 88, elles n'ont jamais été aussi médiatisées d'abord, aussi, elles n'ont jamais joué le rôle qu'elles jouent actuellement, donc depuis 2 ans. Alors, pourquoi des associations de femmes? Il se trouve que, pour essayer de donner un aperçu un petit peu de la situation, je commencerai par préciser qu'il existe une mosaïque de situations de femmes en Algérie. Il y a une minorité de femmes qui vivent comme certainement des femmes occidentales, je veux dire, qui jouissent de leurs droits de manière totale, du droit de circuler, du droit de travailler, du droit de s'exprimer, du droit de choisir et d'opter pour une vie ou pour une autre. Mais il existe aussi, à côté de cela, des femmes qui n'ont pas le droit d'étudier, des fillettes qu'on retire de l'école. Il existe aussi des femmes qui se font renvoyer et jeter à la rue. Il existe aussi des femmes qui ont du mal à se maintenir au niveau du travail. Il existe aussi des femmes qui sont en conflit avec le statut que la société leur donne et des femmes qui, en tout cas, déclarent assumer ce statut de femme très, très particulier. Il se trouve simplement que des luttes multiples en 63, en 67, en 73, en 76, et puis ensuite dans les années 80, des luttes de femmes ont eu lieu autour du projet du statut personnel qu'on appelle Code de la famille. Et ça n'est qu'en 84 que le Code de la famille a été voté par une assemblée populaire qui n'a jamais consulté personne sur ce projet. Et c'est un code qui codifie justement un certain nombre de situations inacceptables pour les femmes. C'est, par exemple, un code qui légitime la polygamie, même si je dois préciser que les polygames en Algérie ne doivent certainement pas dépasser les 3%, d'après les chiffres connus, donc ce n'est pas un phénomène généralisé, etc. Vu les difficultés de la vie, les Algériens préfèrent faire de la polygamie successive, c'est-à-dire se marier, divorcer, se marier, divorcer. Ils peuvent en avoir un peu plus que 4. C'est un code qui leur permet d'exiger de leurs épouses une obéissance absolue. Autrement dit, le mari décide d'un certain nombre d'actes civiques de sa femme. Ce code met la femme en Algérie sous la tutelle, sous tutelle en permanence, de sa naissance à sa mort, sous la tutelle de son père, puis sous la tutelle du mari. C'est un code qui ne lui permet pas de divorcer dans des cas scandaleux du type tabassage. Il y a énormément de cas de femmes battues et il n'existe aucune possibilité pour ce type de femme de demander le divorce comme dernière alternative, par exemple. Le divorce est un droit absolu pour l'homme, puisqu'il suffit qu'il le déclare pour que ça existe. Alors que pour la femme, il y a seulement 5 conditions et les 5 sont irréalisables. Il faut par exemple prouver que l'homme est impuissant, ou qu'il a délaissé la couche conjugale pendant plus de 6 mois, ou alors qu'il a commis une faute qui met la famille en situation de danger moral. Et à ce moment-là seulement, justement, c'est paradoxalement le cas où la solidarité de la famille devrait jouer, qu'on permet la dissolution de cette famille. Mais il n'y a pas que le code de la famille. Il y a les pratiques au quotidien. Il y a le fait que, dans cette société, il est parfaitement admis que les femmes n'ont pas les capacités de choisir ce qu'elles veulent être, ce qu'elles veulent devenir, ou simplement un projet personnel. Il y a le fait, donc, que dans mon pays, il y a des lois écrites et des lois non écrites. Mais les lois non écrites sont aussi pesantes que les lois écrites. Si bien que la bataille des femmes aujourd'hui s'articule sur ces deux éléments. Pour ceux qui ont vu le film, vous avez certainement entendu parler de ce débat sur les mentalités. Donc l'image de la femme qui est charriée par les manuels scolaires, des machins comme ça, des choses qui sont vraies aussi chez vous, j'imagine. Parce que c'est pas encore un acquis. Et il est très difficile de changer des mentalités du jour au lendemain. Il y a le fait, surtout, que le mouvement des femmes qui se développe, qui est en activité, qui regroupe un nombre appréciable de femmes, mais pas une majorité, est un mouvement qui ne suscite pas l'adhésion populaire, pour des raisons multiples. D'abord pour des raisons historiques. C'est-à-dire qu'en Algérie, quand on parle d'émancipation des femmes, c'est automatiquement vécu comme un slogan colonialiste. Pour la simple raison que le colonialisme en Algérie a utilisé l'enjeu femme comme stratégie de domination de la société. En gros, c'était « on les aura par leurs femmes ». Il y a dans l'histoire de l'Algérie des manifestations instrumentalisées par les Français de femmes payées pour venir, par exemple, se dévoiler publiquement dans une des grandes places d'Alger et qui sont restées dans la mémoire comme donc une ruse. Il y a le fait que le colonialisme français, de manière très particulière en Algérie, parce qu'il s'agissait d'une colonisation de peuplement, a essayé de déstructurer toutes les structures familiales et communautaires des Algériens. Résultat, la seule façon de résister des modèles présentés par un agresseur, par un dominant, était de se replier sur ce qu'on appelait l'identité, mais qui en réalité étaient des pratiques traditionnelles, un peu ancestrales. Autrement dit, la femme devenait le symbole de ce qu'on ne livre pas à l'autre, la femme qui doit être l'inviolable pour le français. Et pour protéger cette identité, eh bien, on a encore plus protégé les femmes, et en les protégeant mieux, on les a enfermées. C'est pour cette raison-là aussi que le mouvement national en Algérie, qui est extrêmement riche, qui est un mouvement multipartiste, contrairement à ce qu'on croit souvent, le multipartisme n'est pas nouveau en Algérie, eh bien, le mouvement national n'a pas non plus résolu cette question, puisqu'il ne l'a jamais posée. Il existait pourtant des minorités qui se demandaient quelle place pouvait avoir la femme dans un projet de société dans une Algérie indépendante. Mais c'était bien une minorité. Et il faudrait détruire le mythe de la participation active des femmes à la guerre de libération nationale. Parce que je crois qu'il est temps de dire et de clamer tout haut que les femmes ont été instrumentalisées pendant la guerre de libération nationale, mais n'ont jamais été représentées dans aucune instance, ni politique, ni militaire du FLN. Elles ont au contraire été refoulées vers les frontières en 57-58, parce qu'on refusait ces femmes qui spontanément venaient à la lutte armée. On les a utilisées par contre dans la guérilla urbaine, quand il n'y avait plus moyen de faire autrement, parce que c'était plus facile, parce que les femmes passaient plus inaperçues, parce qu'il y avait le voile qui permettait de cacher les bombes dans les couffins. Donc il s'agit non pas de nier la participation des femmes à la guerre de libération nationale, mais de poser, comme le dit Mohamed Harbi, de poser le problème du niveau de participation. Donc à aucun moment dans l'histoire de l'Algérie, il n'y a eu de prise en charge par les femmes de leur spécificité ou de l'entité femme dans un projet de société en construction, donc réfléchi dans le mouvement national. Si bien qu'en 62, à l'indépendance, eh bien, les femmes se sont retrouvées avec des aspirations démocratiques, on dirait. Elles attendaient, par cette légitimité historique, travaillée par les médias, par la propagande du FLN, donc affirmant que les femmes participaient, etc., mais qui était en réalité une image que l'on produisait surtout pour l'autre, que l'on produisait pour d'éventuels progressistes en France ou en Europe qui pourraient soutenir la guerre de libération nationale, eh bien ces femmes se sont retrouvées, qui attendaient donc de cette Algérie nouvelle une place due à cette légitimité historique, eh bien se sont retrouvées très rapidement chez elles. Et à celles qui avaient fait la guerre de libération nationale en prenant en charge des tâches domestiques dans les maquis, eh bien on a proposé, alors qu'elles étaient les sœurs de combat, on leur a proposé des postes de concierge, de femmes de ménage, chez leurs frères de combat. Et les femmes n'ont été introduites en Algérie dans un projet moderniste, en réalité, que lorsque, de nouveau, l'État a eu besoin d'intégrer les femmes dans une politique d'investissement économique. Et c'est à ce moment-là que les femmes ont eu accès au travail, c'est vrai. Mais il faudrait dire que les femmes travailleuses en Algérie jusqu'à aujourd'hui sont 365 000, point. Elles ne sont pas plus nombreuses que cela. Et elles ont été, encore une fois, utilisées à ce moment-là parce que l'économie en avait besoin. Et le discours officiel à l'époque, c'était « prenons à l'Occident ». Ce qu'il peut nous donner, ce dont nous avons besoin, autrement dit, la technologie, mais gardons bien nos traditions et notre identité. Mais les traditions et l'identité, personne n'était capable de les définir. Tout ce qu'on savait, c'est que la meilleure garantie, c'était que les femmes se définissent d'abord comme reproductrices d'un certain nombre de valeurs traditionnelles et qu'elles continuent à reproduire des rapports de différenciation, pour ne pas dire de domination, entre filles et garçons, à l'intérieur de la famille comme ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu échec de cette politique d'investissement en Algérie, donc avec la mort de Boumediene, il y a eu reflux, de nouveau, du travail des femmes, qui objectivement est un facteur d'introduction dans la modernité. Mais il y a eu non seulement ce reflux à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là aussi que les femmes ont eu à subir une codification légale. C'est à ce moment-là que le code de la famille est né et qu'il a été voté. Autrement dit, à un moment où il y avait un affaiblissement de la présence des femmes dans le milieu du travail. N'empêche que cette époque a permis de scolariser un grand nombre de filles, même si dans les campagnes, disons qu'on ne pouvait pas vérifier que les parents envoyaient toujours les petites filles à l'école. Mais il y a eu des facteurs objectifs qui peuvent expliquer que celles qui défendent aujourd'hui le plus des acquis tels que le droit au travail, le droit à l'instruction, le droit à la circulation libre, ce soient ces femmes qui ont connu cette époque moderniste et qui refusent cet échec aujourd'hui. Autrement dit, l'élite et puis, disons, des milieux francophones, puisque c'était l'époque où la politique d'arabisation ne s'était pas encore imposée. Depuis les années 80, il y a eu un recul certain qui s'est conjugué à une dégradation des conditions de vie des Algériens. Et je crois, pour revenir à la situation d'aujourd'hui, qu'il faudrait préciser que la vie des femmes, dans leur grande majorité, est faite d'abord d'une grande misère. C'est-à-dire que la vie est tellement chère, tellement dure, qu'il est difficile aux femmes de réfléchir en termes d'émancipation. Il s'agit d'abord de nourrir sa famille et d'arriver à joindre les deux bouts. Il y a, depuis la libéralisation, donc datant de 88, sous la pression du FMI, de la CE, il y a une très grosse inflation qui se répercute sur le niveau de vie. Et ça veut dire des choses concrètes pour les femmes. Ça veut dire, entre autres, que l'État se désengage de toute la politique sociale, qu'il se désengage, par exemple, au sein d'institutions qui auraient permis le travail des femmes. Il n'existe plus, par exemple, de soutien aux garderies, aux crèches pour les enfants. Or, c'est des éléments qui découragent les femmes de travailler. Il y a un désengagement par rapport à la scolarité. Les exigences d'entrée, pourtant l'école est encore gratuite, mais les livres coûtent cher, alors que jusque-là, ils étaient subventionnés très fortement par l'État. Ça fait qu'une famille est souvent obligée de choisir entre la scolarisation des garçons et des filles. Et ça se traduit aussi par des rapports sociaux qui renouent avec une société traditionnelle. Et c'est là que l'intégrisme joue son rôle. Parce que l'intégrisme, contrairement à la façon dont on le présente en Occident, apparaît comme une solution radicale aux problèmes qui se posent dans la vie quotidienne. Le désarroi des jeunes, le désarroi des femmes est pris en charge par les intégristes parce qu'ils proposent un rêve communautaire et que l'histoire récente prouve que la communauté permet de prendre en charge un certain nombre de difficultés personnelles, individuelles. Il y a aussi le fait que face à face à des difficultés, face à une peur suscitée par la paupérisation, le groupe reprend ses droits. Et des revendications du style, les revendications du mouvement femme autour de la citoyenneté et autour de droits individuels, donc, paraissent un peu en porte-à-faux. Mais disons que c'est un combat que les femmes mènent aujourd'hui. Et la dernière campagne que nous menons dans la coordination nationale est la campagne contre les procurations. Je ne sais pas si on l'a dit en Europe, mais la loi électorale nouvelle qui a été votée pour les premières élections libres en Algérie qui se sont passées le 12 juin, est une loi qui stipule, par exemple, que le conjoint a le droit de voter pour son conjoint sans procuration. Et suivi d'un article qui stipule qu'un individu a le droit d'utiliser 3 procurations, donc supplémentaires. Et dans les faits, la veille du 12 juin, la déclaration du ministère de l'Intérieur assertait qu'il n'y aurait pas de contrôle d'identité dans les bureaux de vote. Si bien que n'importe quel citoyen algérien dans un pays où le vote effectif des femmes n'a pas grande réalité, ou d'abord le vote n'a pas tellement de réalité pour tous les Algériens, puisque c'est pas dans... Eh bien, ça voulait dire que n'importe quel citoyen, non seulement pouvait voter pour plusieurs personnes, mais en plus qu'il pouvait voter dans plusieurs bureaux de vote, autant de bureaux de vote qu'il le désirait, puisqu'il n'y avait aucun contrôle d'identité. Et c'est pas des spéculations, parce que ça, c'est des choses que nous avons vues, que nous avons observées, et que nous avons dénoncé. Je crois que les femmes sont trop soucieuses elles-mêmes de tout ce qui est aspiration démocratique pour refuser une sanction quelconque, qui soit une sanction d'un vote, quels qu'en soient les résultats, mais dans des conditions réellement démocratiques. C'est pour cette raison que cette loi a été dénoncée par les femmes, bien avant le mode de scrutin, bien avant le scrutin du 12 juin, qu'elle a été dénoncée au lendemain du scrutin du 12 juin, et que ça fait l'objet de la campagne actuelle, puisqu'il est question de révision du code électoral. Alors, nous avons appelé à la constitution d'un comité national de lutte contre les procurations, dans lequel nous avons rejoint un certain nombre de partis, disons qu'ils vont du centre-gauche à l'extrême-gauche, et qui sont présents, disons, dans cette lutte. Et nous avons pu, après un certain nombre d'opérations de sensibilisation et de mobilisation, nous avons présenté nos amendements à l'Assemblée populaire nationale, et il nous a été répondu par le président actuel de l'APN que le principe d'une présence, une voix, était acquis au niveau de cette APN, qui, je vous le rappelle, est l'APN du FLN, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été renouvelée, elle n'a aucune légitimité populaire, mais elle continue à voter toutes les lois qui ont cours. Eh bien, le président de cette APN disait donc une présence, une voix, on est d'accord. Mais l'histoire du conjoint, c'est un peu plus compliqué. Je ne peux pas me mettre à dos toutes les familles algériennes. Et en réalité, il ne peut pas se mettre à dos, surtout, un courant politique aujourd'hui important en Algérie et populaire, représenté notamment par le Front islamique du salut. Donc en gros, ce qui nous est proposé par l'APN, c'est de couper la poire en deux. Et puis les femmes n'ont qu'à se débrouiller pour gérer cette situation-là. Il nous a proposé, entre autres, de participer aux travaux de la commission juridique de l'Assemblée nationale quand elle entamerait ses travaux sur la révision de la loi électorale. Mais inutile de vous dire que depuis cette promesse, cette commission n'a pas commencé ses travaux. C'est reporté de semaine en semaine et de jour en jour. Et nous ne serions pas du tout étonnés d'apprendre que tout d'un coup, la loi électorale a été discutée, qu'elle a été votée, et puis il faudra faire avec. Bien. Voilà, je crois. Je ne sais pas si. Je ne sais pas quelle peut être la valeur d'un tableau aussi. Enfin, qui part un peu dans tous les sens. Mais je compte un peu sur les questions pour plus insister sur un aspect ou sur un autre. Que les femmes ont toujours été au centre de l'enjeu modernité-tradition. Et je me demande si on n'est pas le seul pays où la question culturelle a toujours été liée à la question de l'identité et de la religion, si bien que se pose de façon interrogative la question de la laïcité. Alors, donc ce que je pourrais dire encore une fois, c'est que en Algérie, par rapport à la modernité, pour les Algériens, vu cette histoire pesante du colonialisme, entrer dans la modernité, c'était entrer dans les valeurs de l'autre, entrer dans les valeurs de l'agresseur qui présentait, lui, une échelle de valeurs moderniste, mais qui présentait comme des valeurs supérieures et uniques, en gros, universelles, etc. Donc, ça a toujours été la pierre d'achoppement un peu de toutes les réflexions, mais aussi du jeu politique. C'est-à-dire que il a toujours été très difficile pour les différents gouvernements qui se sont succédés d'affronter cette question de la modernité qui impliquait toujours, mais de manière régulière, la réflexion sur le problème du statut des femmes. Il y a un moment où une femme dit dans le film, la femme est le problème national de l'Algérie. Mais je vous assure que c'est vrai. C'est vrai. Dans les cafés, dans la rue, dans les universités, partout, on a l'impression qu'il n'y a que ce problème-là. Alors que il y a une crise du logement, il y a une paupérisation grandissante, il y a un problème de culture, il y a un problème de survie. Et puis, tout ça n'a pas de sens à côté de la question centrale et les femmes alors. Bon, et est-ce qu'on a le droit d'entendre leur voix? On n'a pas le droit. Et comment elles doivent s'habiller? Mais en réalité, c'est par cette question-là que se posent toutes les autres. Il n'y a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. C'est une réflexion que le mouvement de femmes mène. Est-ce qu'il est possible de croire, comme le croient certains partis de droite, mais modernistes, style parti Aït Hamed et d'autres partis sociaux-démocrates, est-ce qu'il est possible de croire que la libéralisation de l'Algérie, autrement dit l'introduction de l'économie de marché, entraînera automatiquement un statut de modernité, enfin entraînera les femmes dans la modernité occidentale. Parce que c'est ça qu'ils défendent comme idée. Et je ne sais pas si je reflète la pensée du mouvement femme, parce qu'c'est en discussion actuellement, mais sincèrement, je ne crois pas. Je crois que quand on a affaire à un pays en situation, encore une fois, dominée, autrement dit, un pays dans lequel la bourgeoisie est extrêmement arriérée, on peut parfaitement adopter une économie de marché qui se conjugue avec des rapports sociaux traditionnels. Encore une fois, le libéralisme en Algérie aujourd'hui, ça signifie désengagement de l'État par rapport à des choses qui se répercutent sur la vie des femmes. Alors, supposons, hein, puisque le débat en Algérie actuellement, c'est ça, c'est à quand les multinationales et comment introduire les multinationales et quelles garanties donner aux multinationales pour que les étrangers acceptent de venir investir et quelles garanties pouvons-nous leur donner par rapport justement aux islamistes qui semblent effrayer un petit peu tout ça. Bon, mais les multinationales vont introduire des produits qui de toute façon seront inaccessibles pour la majorité des Algériens. Alors, pour les femmes, ça veut dire concrètement pas de frigidaire, pas de cuisinière, pas d'électroménager, rien qui soulage la vie quotidienne des femmes. C'est pas parce qu'il y aura une économie de marché, la concurrence, le machin, que la vie des femmes en sera améliorée pour autant. C'est pas vrai, justement parce qu'on est un pays qui ne maîtrise pas la technologie. Bon, c'est de cette façon-là que se pose pour nous la question de la modernité. C'est pas tant justement en termes de modèle de la France ou d'ailleurs. Mais je dois préciser que le mouvement des femmes en Algérie est souvent accusé, presque toujours en réalité, d'être très occidentalisé, de fonctionner par rapport au modèle européen. Il y a un concept nouvellement inventé en Algérie qu'on appelle Hezb França, le parti de la France. Eh bien, les femmes, pour l'opinion publique, hein, pour la majorité des Algériens, les femmes font partie de Hezb França. Parce qu'elles osent réclamer, en fait, elles osent contester les rapports tels que les a institués le patriarcat, tout simplement. C'est parce qu'elles osent dire non à un rapport de domination. Et c'est assimilé automatiquement à une argumentation de type occidental.